celle et la lumière, deux facettes d'une même pièce de monnaie. C'est un enseignement important que nous entendons aujourd'hui, extrêmement concis et compact, mais tellement important. Et je voudrais tout d'abord préciser un point, le deuxième mot, deuxième mot dans ce que dit Jésus. Et pour le préciser, je commence par une petite histoire. C'est bien les histoires, ça retient l'attention. Un enfant de 10 ans ne voulait plus aller à la messe. « Mais viens, lui disent ses parents, on va être en retard. »« Non, je ne veux pas. »« Mais pourquoi? Tu t'ennuies ?»« Non, je n'aime pas entendre l'Évangile. »« Ah, tu trouves cela trop long ?»« Non, je n'aime pas Jésus. »« Tu ne l'aimes pas ?»« Non, je ne l'aime pas parce qu'il se prend trop au sérieux. » Ah bon? Oui, à chaque fois, il a toujours raison. Et cet enfant a sans doute réalisé ce que, d'après l'auteur de cette histoire, a pu dire Hans Urs von Balthasar, à savoir révéler la prétention de Jésus. Le fait de revendiquer clairement d'être l'égal de Dieu. C'est un fait unique dans l'histoire. Et tout ceci vient éclairer le deuxième mot de Jésus, « Vous êtes ». Jésus n'a pas dit « Hé, maintenant il va falloir être le sel de la terre » ou bien « Il va falloir travailler pour devenir le sel de la terre ». Vous êtes, avec la même autorité que le Fils a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est un prénom de baptême, pour ainsi dire. C'est-à-dire que quand vous signez, vous pouvez mettre virgule, celle de la terre. C'est authentique. Jésus ne se trompe pas et c'est la première phrase qui est une révélation aux disciples. Vous êtes. Alors déjà, il nous faut recevoir cette parole ontologique de l'ordre de l'être. Je la commenterai un peu tout à l'heure. Et nous sommes quoi? Nous sommes du sel. Alors je ne sais pas ce que dirait quelqu'un qui rentrerait. Un incroyant et qui dirait, ben mon vieux, ils sont comparés à un condiment, eux, c'est quand même pas extraordinaire. Mais quel condiment? Jésus n'a pas dit, vous êtes le poivre de la terre. Ou, même si c'est pas tout à fait un condiment, vous êtes l'huile de la terre. Vous êtes le piment de la terre. Vous êtes le vin de la terre. Vous êtes le sel. Alors évidemment, une petite promenade dans la Bible nous apprend que Dieu ne veut pas de régime sans sel. C'est une invention moderne, mais dans le Lévitique, il est écrit « Tu saleras toute offrande pour le Seigneur ». Et avec cet hébraïsme génial de l'hébreu, il y a écrit « Salant, tu saleras ». Histoire que ceux qui n'ont pas compris comprennent bien. Tout d'abord, ce sel que Dieu demande. Et puis, cette alliance de sel qui revient récurremment dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament. Pourquoi une alliance de sel? Eh bien, parce que ça dure. Celles parmi vous qui sont nés dans le millénaire précédent, on peut être expérimenté que le sel permet de conserver les aliments. C'est le frigidaire ancestral. L'alliance de sel, ça dure. Et puis le sel, ça assainit. Si tout à l'heure, à la bénédiction de l'eau, nous avions béni le sel, nous aurions eu cette petite oraison qui rappelle Élisée qui jette le sel pour assainir l'eau dans le deuxième livre des Rois. Et puis le sel, ça brûle. Dans le livre des Juges, quand Abimélec fait une razzia, je ne sais plus où, l'Écriture nous dit « il sema du sel ». Le sel, c'est pour être sûr que ça ne repousse pas, quoi. Et puis, il y a encore quelque chose d'assez extraordinaire dans le sel, c'est que c'est un condiment de convivialité. Dans le livre d'Esdras, nous découvrons que quelque chose est fomenté contre le roi. Je ne me souviens plus de quoi il s'agit. Et l'un des interlocuteurs dit « Nous avons part au sel du palais, nous ne pouvons pas faire des choses contre le roi. Nous sommes comme en sceau, nous vivons ensemble. » Il semblerait même qu'aujourd'hui encore, le maire de Jérusalem, quand il accueille un étranger, doit venir avec du pain et du sel. Et puis, l'inégalable Job nous rappelle que le blanc d'œuf sans sel, c'est quand même pas très sympathique à manger. Mais pour cela, il faut que le sel disparaisse. Et vous avez peut-être remarqué que quand vous mettez du sel dans vos carottes, vous ne dites pas « je mange les carottes au sel ». Et quand vous mettez du sel dans votre soupe, vous ne dites pas « je mange une soupe de sel ». C'est-à-dire que le sel a ce pouvoir d'exhausteur. Bon, c'est connu, hein. Le sel révèle le goût des choses. Ah, c'est des carottes. S'il n'y a pas le sel, non. Pour les tomates, ça marche moins parce qu'aujourd'hui, on les cultive d'une telle manière que de toute façon, il n'y a plus rien dedans. Donc, sel ou pas sel, bon. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc le sel est appelé à se dissoudre pour révéler quelque chose. Et finalement, ce sel, ben, il donne la vie aux aliments. Le sel donne le goût aux choses, le sel révèle le goût des choses. Il conserve, il se mêle, il se dissout. Le sel est un révélateur passif. Voilà ce que Jésus vient de nous dire. Vous êtes le sel de la terre. Ceux qui ont fait des photos d'argentique savent qu'il faut un révélateur pour que l'image latente devienne visible. C'est évidemment ce que Jésus a fait. En arrivant dans notre vie, dans notre monde, il révèle par sa présence. Je vais y revenir. Avec cette humilité du sel qui se dissout, mais qui est bien là. Buvez une tasse dans l'Atlantique, je vous promets que vous allez vous en rendre compte. Boire une tasse, pour ceux qui sont d'une autre langue, ça veut dire avaler de l'eau de mer. On se rend compte quand elle est salée. Hein. Alors un petit détour aussi, bien qu'il ne soit pas biblique, parce que j'ai découvert ça et je trouve ça amusant et intéressant par l'arabe. Le sel en arabe se dit milhan. Et avec les jeux de mots qu'il y a dans l'arabe, il y a un dérivé du sel qui est malha. Malha, c'est la chair du dromadaire, la partie grasse. Et par extension, c'est devenu la beauté du dromadaire. C'est bien qu'on a malihoun, qui veut dire le beau visage. Et encore, par une autre extension, nous avons malahir, qui veut dire les bonnes actions. Alors, ça n'est pas biblique, mais si vous avez bien écouté l'Évangile, vous vous souvenez qu'il est question de bonnes actions tout à l'heure. Bon, petit excursus qui n'est pas exactement biblique, qui ne marche pas en araméen. Il ne marche pas dans l'Évangile transcrit en hébreu, en arabe non plus, mais C'est intéressant tout de même. Et ceci nous amène à la lumière. Encore une fois, vous êtes la lumière. Il y a un parallèle fascinant dans ce verset avec le prologue de Jean. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. La lumière brille dans les ténèbres. Et si pour Jésus, la lumière et la lampe, c'est tout un, puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme, pour nous, il faut bien nous souvenir que nous ne sommes pas la lampe, nous ne sommes que la lumière. Qui nous a allumés ? Le baptême nous a allumés ? Ultimement, c'est Dieu qui nous allume, qui nous révèle. D'où ce lien avec Dieu, cette participation à la lumière. Il est la vraie lumière, dit Jean. Et quel est le rôle de cette lumière ? De faire voir la gloire de Dieu. C'est quand même fou qu'on soit appelé à ça. Par nos bonnes actions. Alors, placé à cet endroit-là, on peut légitimement penser que les bonnes actions, c'est l'accomplissement des béatitudes. Alors j'en prends une au hasard, celle des persécutés. Est-ce que quand nous... C'est l'époque des JO en Italie, les JO d'hiver, les Jeux Olympiques d'hiver. Là. Ça m'a fait penser aux Jeux Olympiques de Paris. Qui, en voyant cette présentation un peu dramatique des Jeux Olympiques en France, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est voilà, une espèce de parodie de scène, oui, non, c'est pas très bien. Qui a sauté en l'air en disant « nous sommes persécutés » ? Yes ! Est-ce que nous vivons ça jusque-là ? Et puis, il y a un autre parallèle avec Jean, encore une fois, c'est Nicodème. Parce qu'il est écrit quelque chose de très étonnant. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Alors vous, je ne sais pas, mais souvent les gens lisent un peu différemment que ce qui est écrit. C'est assez courant d'ailleurs. En fait, dans l'Écriture, il est écrit ceci. Quiconque fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et alors nous comprenons donc celui qui fait le bien vient à la lumière. C'est pas ce qui est écrit. Il est écrit celui qui fait la vérité. C'est-à-dire qu'il fait peut-être pas que le bien non plus. Mais il est vrai, il est droit. Il est sous le regard de Dieu. C'est un peu comme David qui vient à la lumière dès que le prophète lui fait voir son péché. David ne dit pas « oui, mais enfin Bethsabée, elle aurait pu faire ça une autre heure. » David, il dit « Anori, c'est moi qui ai péché. » La vérité de notre vie glorifie le Père. Et la lumière, nous la découvrons, est un révélateur actif. Le sel est passif, la lumière est active. La vie est la lumière des hommes. Alors pour conclure, c'est déjà très long, je voudrais vous faire remarquer que le sel et la lumière peuvent être comparés aux deux natures du Christ. Le sel, qui est cette présence de Dieu qui vient parmi nous, qui est là, mais on ne le voit pas. Peut-être il est encore plus, c'est encore plus les deux natures du Christ depuis l'ascension. Il est présent, mais on ne le voit plus très bien. Il est là au milieu de nous, invisible. Et sa lumière se fait voir, sa gloire est là, et il glorifie le Père. Et nous sommes donc appelés par Jésus à être sa présence et sa visibilité. Autrement dit, c'est révélateur. Et si nous refusons, le texte nous dit que le sel devient insipide. Vous savez probablement qu'en grec comme en syriaque, il n'y a pas écrit insipide. Il y a écrit fou. Si le sel devient fou, to turn green, devenir, eh bien à ce moment-là, nous ne remplissons plus notre fonction. Nous ne sommes plus ce sel. Nous ne sommes plus cette lumière qui vient de cette lampe. Nous devenons une lumière artificielle qui fausse la réalité et qui ne rend pas l'image latente, image visible. Soyons donc ce sel et cette lumière par la grâce de Dieu et surtout rendons-lui grâce de ce don inouï. Amen.